dans la mêlée.
Avec Mario Langlois, je pensais que Mario était déjà sur la galerie de la presse, mais il s'en va.
Tout de suite après notre chronique, oui. je vais prendre ma petite marche vers le Centre Bell, évidemment, pour être là pour le début de l'émission à 18h30.
Alors, je disais, parce que j'ai croisé le prophète à ton émission hier, quand on a rendu hommage à Guillemont.
Oui, évidemment.
J'étais retourné dans la voiture, j'entends le prophète dire « Les quatre prochains matchs sont contre des équipes qui potentiellement peuvent gagner la Coupe Stanley. Mm-hmm. » Et ça commence ce soir contre Winnipeg.
Oui, les Jets de Winnipeg, les Leafs de Toronto, contre qui on pourrait jouer avec la deuxième place de la division en jeu. C'est sûr qu'ils n'ont pas joué le même nombre de matchs. Ensuite, deux autres matchs très...
Prédateurs de Nashville et le Lightning.
Le Lightning de Tampa Bay. Alors... quel sera le verdict de Marc Bergevin et son équipe de recruteurs, d'évaluateurs sur son équipe? Il y a beaucoup de data, il y a beaucoup d'informations à aller chercher dans ces quatre matchs-là. C'est sûr que ce sont toutes des équipes qui, dans leur cheminement, on peut dire, sont en avance sur le Canadien par rapport à là où ils sont rendus dans leur fenêtre, la fameuse fenêtre de Coupe Stanley. Là, c'est toujours une notion qui, des fois, peut devenir floue, mais ces quatre équipes-là sont vraiment dedans. C'est des équipes qui cognent à la porte. Alors, on se surprend, pour nous entendu, Ron et moi, se dire, hey, s'il en gagne, mettons, 2 sur 4.
Ouais.
Ah, s'il en gagne 3 sur 4.
Non, mais le prophète a dit qu'il sortait son fanion. Oui. Si le Canadien, oui, en gagnait 2 sur 4.
Et comment la direction va-t-elle réagir aux résultats de ces matchs-là? Et au même titre que le Canadien pourrait en perdre 4 de suite, Paul. Il n'y a rien à exclure. Mais moi, ce que je te dis, c'est qu'au-delà des résultats, t'espères qu'il n'y ait pas de dommages. Tu t'espères au moins un minimum de 3 points sur 8. 4 points sur 8, t'es en business. Oui. Au-dessus de ça, oui, sors les fanions peut-être. Oui. En tout cas, ça commence à consolider ou confirmer l'idée que tu vas participer aux séries. On s'entend là-dessus. Maintenant, à travers ces matchs-là...
6 sur 8, la ville est à l'envers.
6 sur 8, là, ça commence à s'exciter un petit peu. Ça commence à s'exciter, Paul, c'est sûr.
Ça, c'est sûr.
Mais là, ce qu'il faut regarder, les besoins du Canadien. On a beau dire que Marc Bergevin ne bougera pas, il n'ira pas chercher de joueurs de location. Penses-tu qu'ils ont fait tout ce chemin-là? Ils ont viré la patente de bord de cette façon-là pour s'échouer là, sans se battre ou sans aller chercher un outil supplémentaire si jamais ça vient les aider. Et entre autres, par exemple, on dit qu'on cherche toujours un défenseur gaucher pour épauler Shea Weber. Et là, quand tu lis l'article de Jean-François Tremblay dans la presse ce matin et qui a décortiqué des statistiques avancées des duos de défenseurs ayant évolué plus de 500 minutes dans la Ligue nationale, et là, je te donne la réponse en te posant la question. Mais sais-tu qui est le duo de défenseurs le plus efficace de la Ligue nationale à 5 contre 5 quand tu calcules les buts marqués contre eux quand ils sont sur la glace et les buts marqués par leur équipe aussi quand ils sont sur la glace? C'est le résultat, c'est le différentiel de ça. Alors, la meilleure paire de défenseurs ayant évolué 500 minutes et plus dans la Ligue, eh bien, c'est Victor Mété et Shea Weber.
Tu parles.
Tu parles.
Hein?
Tu parles. Un gars qui a fait un séjour du côté du Rocket de Laval cette année. Et envers qui, semble-t-il, plusieurs observateurs ont encore des hésitations. C'est le nom que j'entends le plus souvent dans les joueurs qu'on serait prêt. Je dis pas Marc Bergevin. Je parle des observateurs, commentateurs. Le nom de Mété, c'est comme on dirait, c'est une valeur quelconque. Comme quelqu'un qu'on pourrait échanger, peu importe qui, là, l'élément de renfort, c'est un des actifs dont on pourrait disposer. Je te dis pas que c'est Bobby Orr, là, Victor Mété. Mais là, quand les statistiques, puis ce qu'on voit, parce que je prendrai jamais juste les statistiques, dénuées de jugement, d'observation, là. T'allais ajouter quelque chose?
Non, j'allais dire que Mété, on aime frapper dessus. Alors que lorsqu'il s'est amené à Montréal, on dit quelle révélation. À ce si jeune âge, il va devenir si précieux et tout ça. Et puis là, on dit, il fait pas un job. Il est pas capable, il a pas le talent, et ci et ça. Mais là, tu nous sors cette statistique là, et t'es obligé de reconnaître que, avant de s'énerver...
Exactement.
Marc Bergevin, avant de s'énerver, hein, et de céder tout de suite à la tentation de dire, on commence à liquider les choix de l'année prochaine, faut qu'il pense deux fois.
Évalue comme faut ce que
t'as. J'ai réécouté ce que t'as fait entendre de ton entrevue avec Bergevin.
T'as-tu que les auditeurs l'entendent?
Janvier, j'aimerais ça le réentendre.
Ouais, puis j'insiste, parce qu'il dit, il vient de faire son point de presse, il n'y aura pas de rental, il n'y aura pas de ci, j'ai dit, puis là, j'insiste.
Écoutez bien.
Mais t'as déjà fait des acquisitions intéressantes avec un choix de deuxième ronde. Est-ce que tu exclus ça?
Écoute, j'exclus rien du côté d'un choix de deuxième ronde. On en a deux. C'est des choix très importants. Écoute, je te dirais pas non, mais c'est mieux d'être vraiment quelque chose de très intéressant pour laisser partir un choix de deuxième ronde.
Il y en a deux.
Tu as vu, là? Nashville a laissé partir un choix de deuxième ronde pour Brian Boyle.
Oui, oui, oui. Et ça... du côté du Canadien, on avait un intérêt pour Boyle,
ouais.
Mais pas à ce prix-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pas était prêt à donner. Peut-être un cinquième round, un quatrième round. J'ai pas l'info de ce qu'on aurait jugé un prix adéquat. Mais deuxième round, il n'en était pas question. Et la question qu'on posait sur Twitter, je pense que je t'en ai parlé, Paul, hier. Les gens ont la conviction, remarque pas dans une grande majorité, mais moi, je pense qu'avec un choix de deuxième ronde, t'es capable d'aller chercher quand même un élément, un joueur efficace.
Ça,
là.
C'est sûr.
Je te parle pas d'une superstar, mais je pense que t'es capable de boucher un trou. Mais est-ce que le trou qu'on a bouché est toujours à la gauche de Weber?
Exactement.
Ça, c'est la question.
Parce que hier, vous avez abordé la question du quatrième trio.
Exactement.
Et je sais pas quelle est la vision du Canadien, Claude Julien et Marc Bergevin en tête. Est-ce qu'on veut réaliser le coup de circuit dans une transaction qui irait nous chercher un joueur dominant ou si on veut consolider le quatrième trio qui est faible? Le quatrième trio, en ce moment, je ne sais pas si tu es d'accord, Mario, il fait juste du temps.
Et je vais retourner à l'article très intéressant de Jean-François Tremblay pour renchérir et épauler, valider ce que tu viens de dire. C'est que dans son exercice d'avoir décortiqué beaucoup d'éléments statistiques, il en vient à la conclusion que justement, les gars qui sont pris dans la rotation là, de dépanner, de jouer sur la carte, c'est-à-dire Pekka, Deslauriers, Hudon, Chaput, Petrie, c'est un défenseur, non, comme Agostino, ce sont tous des gars qui... Il y a beaucoup plus de buts marqués contre le Canadien que de buts marqués par le Canadien quand ces gars-là sont sur la glace. Ça ne veut pas dire toujours de la faute d'un puis de l'autre, mais la stat donne ça comme résultat. Alors, c'est des postes à prendre encore, les postes de quatrième trio chez le Canadien, là, Paul.
Ça va être un très grand match, je pense, ce
soir. J'espère.
Salut.